Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver avec un nouvel invité. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. J'accueille aujourd'hui un jeune homme de 40 ans qui est déjà venu dans Wagon Livre. C'était en 2016 pour un album de photographie Regard sur le Morvan. Mais comme il a de nombreux projets et qu'il va toujours de l'avant et qu'il est amoureux du Morvan où il réside, il va nous parler d'un album qui est toujours disponible, alors des photographies couleur et noir et blanc qui montrent cette ruralité morvandelle, Morvan, du rêve à la ruralité. Bonjour Jean-Christophe Zounia.
Bonjour à vous, merci pour l'invitation et bonjour aux auditeurs.
C'est un grand plaisir de vous recevoir 6 ans après notre première rencontre. Je vous présente à nos auditrices et auditeurs. Alors, on l'entend un peu, et on l'entendra au fur et à mesure du déroulement de l'émission, votre accent qui sent la Méditerranée. Vous nous venez de Marseille, vous avez connu différentes expériences professionnelles, vous avez été pâtissier notamment, à très haut niveau, hein, dans des palaces, vous avez un temps tenu un hôtel café-bar à la campagne, et puis vous avez des attaches familiales dans le Morvan et vous avez décidé de vous y installer en 2013. Vous avez acheté une maison dans le Morvan. Alors, c'est pas une région, le Morvan, c'est une entité géologique plutôt.
Le Morvan, pour moi, c'est un peu délicat déjà à délimiter, puisqu'il y a plusieurs délimitations qu'on peut prendre en compte, soit la géologie, justement, oui, et puis après la géologie. Moi, je la considère pas comme la vraie délimitation. Je considère plutôt comme la vraie délimitation, la mentalité et l'appartenance au Morvan. Et en fait, on peut constater que même dans certains secteurs, en dehors des limites géologiques du Morvan, il y a une attache concrète et réelle au Morvan. Et les gens se sentent morvandiaux. Et même quand on y est, qu'on s'y déplace, qu'on y balade, on se sent en Morvan. Tandis qu'il y a des secteurs qui sont géologiquement en Morvan. Mais quand on y est, on ne se sent pas en Morvan, il n'y a pas cette âme.
Alors vous n'êtes pas un morvandieu d'origine, vous êtes un morvandieu d'adoption. Donc vous habitez Millet, alors vous êtes dans la Nièvre, mais pas très loin de la Saône-et-Loire. Et Millet, pour situer, c'est entre Luzy et Autun. Et c'est vous ça. Y vivez plutôt en homme qui a choisi de s'éloigner de la société dont beaucoup d'aspects vous agacent, voire vous hérissent.
Exactement.
On en parlera sans doute au cours de l'émission. Plusieurs casquettes, photographe, documentariste. Je rappellerai 3 DVD parus il y a quelques années, Jean-Christophe.
Oui, c'est ça, en 2018 et 2019.
Alors, Rencontre en Morvan, volume 2, là vous filmez des paysans morvandiaux retraités qui racontent certains aspects de leur vie. Et puis, vous vous êtes également intéressé aux agriculteurs, c'est-à-dire les actifs de l'agriculture morvandelle, à travers un documentaire en DVD, donc « Le marché au cadran, témoignages d'agriculteurs du Morvan et d'ailleurs ». Un petit mot sur le marché au cadran, ça se situe où, Jean-Christophe?
Alors, il y en a un à Corbigny, mais celui que j'ai filmé, il est à Moulin-Gilbert. Donc, j'invite tous les auditeurs, s'ils ne sont jamais allés voir une vente au marché au cadran, c'est vraiment passionnant, c'est très très intéressant. Et puis c'est plein de vie, ça fourmille de vie, ça parle, on se sent comme dans un bar très animé. Il y a beaucoup de vie, je trouve que c'est agréable à voir et à découvrir. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert au public, c'est pas payant donc. Et puis, on peut y aller une matinée. C'est le lundi et le mardi qu'il y a les ventes.
Donc, le marché au cadran à Moulins-en-Gilbert. Alors, photographe, documentariste, compositeur également, vos livres ont été très largement relayés par les médias, la presse écrite, le journal de Saône-et-Loire, France 3, les régionales, l'émission de Radion également, et d'autres confrères radio, et on ne peut que s'en réjouir. Vous êtes le créateur de la page Facebook Le Morvan en photo, qui à ce jour compte 25 000 membres, et vous vivez de la vente de cartes postales, de livres, de DVD. Il y a un petit livre jeunesse sur votre rencontre avec un magnifique écureuil pompon que vous aviez su presque apprivoiser.
Presque, oui. Et puis après, je m'en suis détaché pour le laisser justement vivre sa liberté. Et puis, bon, bah là, aujourd'hui, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde, mais c'était une très belle histoire.
Et vos cartes postales, ben, par exemple, moi, je les vois à Avallon, à Château-Chinon, lorsque je suis là-bas. En tout cas, on les trouve dans 60 points de vente dans Lyon, la Nièvre.
Ah oui, bah Lyon, Nièvre,
dans le Morvan, quoi.
Côte d'Or, Saône-et-Loire, oui, oui, dans le Morvan, et même en dehors du Morvan, on peut les trouver à Beaune, on peut les trouver à Nolay.
Et de très belles cartes postales qui sont aussi belles que les photographies dont vous faites des livres-albums absolument superbes. On va aujourd'hui s'intéresser à Morvan, du rêve à la ruralité. Il s'agit de faire attention, de ne pas dire du rêve à la ruralité. Alors, Jean-Christophe Zounia, la surprise quand on ouvre cet album, bien sûr, c'est qu'on est séduit par certaines photographies. Mais ce n'est pas le Morvan le plus poétique que vous montrez. C'est aussi un Morvan un peu à l'abandon. C'est un album qui renvoie l'image, peut-être pas qu'en Morvan, dans beaucoup de campagnes françaises, d'une campagne qui périclite, qui n'attire plus grand monde et qui, selon vous, est victime de choix politiques qui ont été mauvais d'année en année.
Ah oui, oui, le but de regrouper les gens dans les villes a été assumé dès le 19e siècle. On a mis en valeur les villes pour que les gens de la campagne se sentent un peu en deçà d'autres personnes qui pouvaient avoir la chance, entre guillemets, d'aller vivre dans les villes. Alors c'est vrai qu'il y avait le confort, c'est vrai que c'était quelque chose, c'était une aubaine à l'époque, mais il y a eu en fait cette manipulation de faire croire que vivre en ville, c'était une réussite. Et comme aujourd'hui, on peut dire « je monte à Paris », c'est comme si on avait réussi, alors qu'on peut très bien réussir dans les campagnes. Et puis, et je trouve que la vraie vie est encore dans les campagnes. La vie, une vie où on peut rester un peu humain. Et malheureusement, en fait, les décisions politiques sont faites toujours dans le sens des villes. Et les campagnes sont plutôt laissées à l'abandon. C'est comme le regard sur le monde paysan. C'est le plouc, c'est un peu considéré comme ça. Ou alors, on essaye de montrer une image d'Épinal d'un paysan avec le béret et le comme si c'était un peu en fait que de la nostalgie alors que ça existe encore, quoi.
Alors je disais surprise aussi en ouvrant le livre parce que il est préfacé par Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et président de Résistons.
Oui, alors en fait lui,
alors un homme du sud qui vient aussi épauler Jean-Christophe Zounia, j'allais dire presque défenseur et ambassadeur d'un certain mode de vie en Morvan.
En fait, Jean Lassalle, si je lui ai proposé de faire la préface, c'est parce qu'un jour, je l'ai entendu, c'était au Sénat, je crois, faire un discours sur le monde rural et les paysans. Et il défendait exceptionnellement le monde paysan et la ruralité française. Et ça m'a touché. Ce discours, je ne parle pas de son combat politique, je parle de ce discours. Et vu que j'ai senti que ces mots étaient vrais, ça sonnait vrai, et je sentais que c'était sincère ce qu'il disait, même si c'est son boulot de politicien de faire ce genre de discours, mais en tout cas, ça sonnait vrai. Et donc, je lui proposais spontanément de faire la préface. Il a accepté rapidement, après avoir vu les esquisses du livre. Et puis voilà, je suis content de ce qu'il a fait. Par contre, ça ne fait pas de moi un militant. Je suis...
vous n'êtes
je
pas
suis encarté ou
vous n'êtes
nulle
certes,
part.
Certes.
Je suis en anti-politique. Je suis. Ça ne fait pas de moi un militant de qui que ce soit.
Vous n'êtes pas neutre dans, dans les écrits de cet album, c'était, on est d'accord.
Ah, hein. Moi, je ne suis pas neutre, justement, je suis anti-politique.
En tout cas, vous voulez défendre la ruralité, tout comme ce député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, qui assure la préface de ce très bel album. On revient avec vous, Jean-Christophe, on marque un premier intermède musical. Je rappelle que c'est Jean-Christophe Zounia qui nous accompagne jusqu'à midi dans votre émission littéraire sur Radion pour Morvan, du rêve à la ruralité. On parlera aussi de l'album de photographie, alors anonyme, là, c'est très original, Écho anonyme. Nous revenons juste après cette virgule musicale.
Comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Transformé en monstre d'amour, et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Ils les devinent quand s'éteint le jour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Christophe Zounia, Morvan, du rêve à la ruralité, un livre de photographies que vous avez fait sur plusieurs années et un peu au hasard, ou est-ce qu'on part en disant tiens, il me faut une photo d'une ferme au toit complètement abîmé. Non, c'est le hasard des promenades multiples dans ce Morvan qui bientôt n'a plus de secret pour vous.
Alors, les secrets, il y en a encore beaucoup pour moi et j'en suis heureux, justement, ça sera peut-être l'objet d'un futur livre. Mais pour ce livre-là, il y a la moitié à peu près des photos qui ont été faites à l'envi, comme ça. Il se présente une ferme devant moi, il se présente quelqu'un, un personnage, je le prends en photo sans réflexion auparavant. Et il y a une partie des photos, justement, quand j'ai décidé de choisir ce thème, de la ruralité, où justement je me suis mis en chasse d'ambiance, en chasse de paysages, de choses du quotidien qui font le quotidien du Morvan. Et puis je sentais quand ça sonnait vrai avec le, avec le thème que je voulais aborder. Et donc, ben voilà, quand c'est un peu un livre les pieds dans la boue que j'ai pu faire.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, de brouillard,
de pluie,
il y a différentes saisons. Il y a une tristesse aussi, parfois en découvrant des maisons dont les volets sont fermés, des hôtels ou des commerces définitivement fermés, des gens âgés qui ont dans le regard une espèce de tristesse, très émouvant, les portraits.
Ben, moi, oui, ça m'émeut, et puis j'espère aussi que ça va émouvoir les personnes qui vont découvrir le livre et qui découvrent la campagne française en général, pas seulement le Morvan. Mais quand je vois des maisons abandonnées, des maisons en ruine, ça déclenche pour moi une émotion particulière, une nostalgie. Et pour moi, c'est comme des petits trésors qui attendent d'être découverts. Ça me touche. Moi, je trouve pas ça triste, en fait. Enfin, c'est triste que ce soit abandonné, mais elle dégage de bonnes ondes. Donc, moi, ça me rassure de voir qu'il y a encore ça.
C'est-à-dire que vous essayez de vous dire que derrière ces portes, derrière ces fenêtres cassées,
il y a une histoire.
Il y a une histoire familiale, il y a dû y avoir des bonheurs, des malheurs.
Et puis
vous êtes un peu nostalgique.
Ah, moi je suis complètement nostalgique.
Et comment un homme de 40 ans peut-il être autant nostalgique? Je ne dis pas que c'est un défaut, c'est pour essayer de comprendre. Vous auriez aimé vivre dans cette campagne Morvandelle dans les années 1900, 1920 par exemple?
Alors, à mon avis, non, parce que... C'est un sacré boulot, c'était pas rien de vivre à cette époque, il fallait travailler comme des forcenés, mais c'était aussi pas la même vie familiale, on était regroupés, tout le monde s'aidait, donc je peux pas dire, j'ai pas connu, donc, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que quand j'interroge les anciens, ils préféraient vivre l'époque qu'ils ont vécue avant plutôt que celle d'aujourd'hui, quoi.
Vous êtes d'accord sur le fait que votre livre, ces photographies, plutôt en noir et blanc. Quelques-unes sont en couleur, mais il y a essentiellement de la photographie en noir et blanc. C'est tout de même un album riche, hein. Il est épais, hein.
Ah,
c'est
oui.
Pas 20 pages.
Combien... 336 pages.
336 pages. Combien de photographies à peu près réunies?
365.
D'accord. Il y a aussi quelques chapitres dans lesquels vous vous exprimez, mais c'est un livre, en tout cas, qui s'éloigne tout de même d'une vision idéaliste du Morvan. Parce qu'en fait, vous vous intéressez à ceux qui sont restés dans le Morvan.
C'est ça.
Or, on voit surtout des femmes âgées, des retraités, de l'agriculture essentiellement. On voit quelques événements festifs. Il y a la fête de l'accordéon à Luzy, la fête de la myrtille de Glue-en-Glaine. Et pour vous, c'était de montrer quand même qu'il y avait eu une vie et qu'il y a des gens qui y restaient et que le Morvan n'est pas une terre que l'on fuyait systématiquement ou que l'on fuit systématiquement.
Ah ben non, moi, mon but, c'est de mettre en valeur le Morvan et que les gens viennent à la campagne en général, pas seulement en Morvan, mais qu'ils se rendent compte que on y vit bien. Moi, si j'y vis, c'est que j'y suis bien, sinon j'y serais parti. J'en serais parti, je veux dire. Mais,
oui, mais quelque part, vous avez ce désir de solitude, de retraite.
Oui.
Et quelque part, le Morvan semble être idéal pour vous.
Ah, moi, pour moi, c'est idéal. Alors après, d'autres vont trouver que c'est trop dépeuplé. Mais après, ce qu'il faut, moi, je pense que le Morvan, comme je l'ai dit depuis le début, ça fait partie de ces régions qui choisissent ses habitants. C'est pas les habitants qui choisissent de venir dans le Morvan. Ils peuvent choisir un temps, ça dure 2 ans, 3 ans maximum. Il se dégage quelque chose du Morvan, il y a une entité au niveau de la région, hein, de ce que dégagent les massifs, la vision des paysages, parce que la vision des paysages influe sur notre caractère et même nos actions, en fonction de si on vit dans un endroit isolé, en pleine forêt, on aura plus ou moins d'envie de sortir. Si on a une vue avec un panorama exceptionnel et avec un lever ou coucher de soleil, on va avoir des envies de sortir ou de ne pas sortir, des envies d'aller vers les autres ou pas. Et le caractère des habitants est forgé par les paysages. Ce n'est pas l'inverse. Et je pense que le Morvan décide qui, au final, va vivre en Morvan.
Ah, c'est un point de vue particulièrement intéressant, en tout cas. On ne va pas vous réconcilier avec les femmes et les hommes politiques.
Non,
cela semble impossible.
Impossible, ça me désintéresse totalement.
Je cite un de vos propos, mais je pourrais les accumuler, hein, puisque je dis les photographies sont classées selon des thématiques, clin d'œil d'ailleurs. Mais par exemple, vous écrivez « Le monde rural est malheureusement assassiné par l'État depuis plusieurs décennies ». Vous parlez de nos traîtres de politique et vous parlez des merdias. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort, Jean-Christophe ?
Non, et encore moins là. Alors, j'ai été mis en valeur, et je ne le nie pas, par les médias. Mais après, quelle est la raison pour laquelle on m'a mis en valeur ? C'est aussi parce que je mets en valeur le Morvan. Et c'est le but des médias, c'est de faire émerger des personnalités pour défendre la cause. Après, je ne vais pas citer qui, mais j'ai énormément de personnes qui sont à haute responsabilité, que ce soit au conseil départemental ou alors... même aux offices de tourisme, des personnalités qui sont à la tête des offices de tourisme, qui me bavaient dessus, enfin voilà. C'est ces personnes-là, après, qui vous font travailler, que j'ai des enregistrements audio avec des insultes, des critiques, des propos diffamatoires, donc bon.
N'êtes-vous pas victime de votre véritable franc-parler d'homme du Sud ?
Oh ben moi, ça me fait ni chaud ni froid. Au début, c'était agaçant, parce que quand on voit qu'on fait quelque chose humainement et sincèrement, y a des gens qui vous bavent dessus, en fait c'est de la jalousie, mais après, bon, maintenant c'est comme si c'était transparent, ils étaient transparents.
Ne craignez-vous pas, justement, qu'à travers cette franchise intellectuelle où vous dénoncez, comme vous le dites, nos traîtres de politique, ne craignez-vous pas, justement, de vous fermer des portes ? C'est-à-dire que parfois il y a des livres, notamment comme les vôtres, de très beaux livres qui renvoie à une image du Morvan. Parfois, on peut avoir un soutien financier ou être parrainé par un conseil départemental ou conseil régional. Vous ne craignez pas non plus de vous être enfermé et que les politiques ne veuillent plus vous soutenir. Alors, vous serez soutenu par d'autres personnes. Peut-être les Morvandiaux, c'est...
Ah ben, moi, je suis soutenu par les gens qui me soutiennent. Après, je n'ai pas besoin de faire le trottoir, de faire la prostituée pour essayer de faire financer mon livre. Je préfère être dans la merde financière, mais avoir mon intégrité, en fait. Là, ce livre, je l'ai financé totalement par moi. Morvan Rhapsody également. Et Regard sur le Morvan, il y a eu une petite aide de 30 livres qui avaient été achetés à l'époque par le conseil départemental. Et depuis que j'ai vu comment c'était vérolé, qu'on essayait de vous accaparer, d'accaparer votre travail à une décision politique, j'ai cessé tout contact avec... ce genre de personnes. Donc du coup, je préfère la liberté et elle n'est pas à vendre.
Après les succès de Regard sur le Morvan, Rhapsody en Morvan, donc des éditions épuisées de très beaux livres de photographie, les DVD, est-ce que vous étiez tenté par un investissement, politique, associatif pour le Morvan ?
Ah non, non.
Non.
Ah non, ça me désintéresse.
Vous n'avez jamais
totalement
eu d'ambition politique ?
Jamais.
Parce qu'on a pu vous regarder comme le jeune homme talentueux, capable de faire des DVD, des cartes postales, des photographies, s'exprimant avec beaucoup d'aisance. Vous n'avez jamais représenté un éventuel concurrent politique pour certaines personnes ?
À jamais, non. À jamais. Jamais, et c'est sûrement pas mon idée. Je sais comment fonctionne la politique, et ça me désintéresse totalement. C'est du vent déjà, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie.
Donc vous n'avez pas voté aux
élections.
Vous n'avez pas voté aux élections présidentielles. Donc demain, premier tour des élections législatives, ça vous est égal.
Ils peuvent élire une chèvre, ils font ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais voté, j'irai jamais voter. C'est inutile. Même si on est élu en maire, les maires reçoivent des directives de l'État avec des allocations, des sommes d'argent, des primes qui sont données. Pour si tu fais ça, on te donne ça. Si tu fais ça, on te donne ça. Alors, on croit que c'est le maire qui décide. Il décide juste quel schéma il va accepter ou pas. Après, le reste, c'est plutôt des emmerdes qu'autre chose. Donc, non, la politique, elle est dans le monde réel. La politique, c'est vous qui permettez de mettre en valeur le travail des gens. Et c'est la politique, c'est moi qui mets en valeur le Morvan. La politique, c'est le boucher qui reste ouvert, qui tient bon et qui paye ses taxes et qui fait en sorte que les habitants puissent rester dans le village. La politique, c'est les professeurs qui continuent à enseigner en campagne. Ça, c'est des politiciens. Les politiques, c'est les habitants. Le peuple, c'est la politique. Et les représentants de l'État, c'est que des menteurs. C'est des gens qui vous demande d'abandonner votre on va dire représentativité. En fait, chacun se représente. J'ai pas besoin de qui que ce soit pour me représenter. Je suis Jean-Christophe Zounia, je suis le seul à pouvoir me représenter. En aucun cas, je ne donne le droit, le pouvoir, avec donc mon consentement, de dire je te donne le pouvoir de décider à ma place. Jamais je donnerai le. Alors c'est par principe, parce que le fait de ne pas aller voter, ça n'empêche pas que des choses se fassent à l'encontre de ce que je pense, ou dans le bon sens, mais jamais je ne donnerai par principe, parce que les valeurs et les principes, c'est important pour moi, de donner le pouvoir à qui que ce soit de décider à ma place, même s'il a les mêmes idées que moi. Les idées que moi, qui ne sont pas forcément politiques, c'est des visions de vie. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce que je trouve qui est bon de faire? Et c'est ça la politique.
Jean-Christophe Zounia est notre invité pour... c'est un album? Livre-album? Comment le...
Ouais, un album photo,
Un
hein.
album de photographie qui a pour titre Morvan, du rêve à la ruralité. De très belles photographies. On en reparle après une nouvelle virgule musicale. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio. Wagon Livre, votre émission littéraire. Alors Jean-Christophe Zounia, Morvan, du rêve à la ruralité, votre album de photographie qui met en valeur un patrimoine qui s'abîme ou qui est disparu, derrière lequel il y a eu des vies humaines, il y a aujourd'hui un jeune homme de 40 ans, Jean-Christophe Zounia, nostalgique, qui fait des photographies. Il y a des portraits de gens plutôt âgés que vous avez fait à l'intérieur, donc qui vous ont reçu, on imagine qu'ils vous ont offert un café, que vous avez, ils ont accepté d'être photographiés pour paraître dans l'album. Y a-t-il eu des conditions? Il y a une photo volée d'ailleurs.
Oui, il y a une seule photo volée.
Et en plus, vous l'avouez.
Ah, je le dis, parce que je n'ai pas réussi à retrouver le monsieur. C'est une photo, j'aimais la posture, l'habitus de ce monsieur. Et il était courbé, j'aimais beaucoup sa façon de marcher. Et donc j'ai pris la photo, c'était à Moulin Gilbert, je crois. Et puis voilà, ben, photo volée, oui. Mais j'arrivais pas à m'en défaire. Et pourtant, c'est une photo ratée, hein, parce qu'il marche, c'est un peu fou. Mais je sais pas, elle dégage quelque chose. Donc ça représente ce qu'est justement ce papy qui marche dans le village.
Parce que ces photographies, il y a des photographies de paysages, alors certaines ont une puissance poétique, certaines parlent, elles ont une valeur narrative, et puis il y a aussi, alors les lycéens le savent parce qu'ils apprennent normalement cela au lycée avec leurs enseignants de français, il y a des photographies qui ont un pouvoir argumentatif et qui essaient de convaincre celui qui regarde ces photographies que le Morvan est un peu à l'abandon.
Ben oui,
il y a des structures, des bâtiments, des granges, des hangars, des entrepôts. Il y a tous ces... Alors ça, c'est surprenant, ces tracteurs un peu en vallée de ronces d'une autre époque.
Bon, après, ça, c'est aussi... ça représente bien ce qui est devenu le monde paysan. Hein.
Oui.
C'est malheureusement... Ils sont à la merci de l'État. Ils sont à la merci des aides qu'on peut leur donner. Puisque leur travail, ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Et c'est des gens qu'on a esclavagisés. Et malheureusement, et ça je les admire, parce que c'est un sacré boulot de faire agriculteur, j'arriverai jamais à faire ce qu'ils font. Et ils tiennent, mais parce qu'ils ont la passion. Et on se sert de la passion des gens pour les exploiter. Et quand vous voyez que des personnes que j'ai pu filmer, qui, quand ils se souviennent de l'attachement qu'ils avaient avec leurs chevaux ou... leur bœuf quand il labourait la terre, alors d'accord, c'est dur, et voilà, c'est très compliqué à faire, mais il y avait un lien entre l'animal, entre la nature, entre la météo, il y avait un lien, on était humain. Et depuis qu'il y a eu le progrès, c'est bien, c'est compliqué, de toute façon, c'est comme Internet, il y a du bon, il y a du mauvais, mais le progrès, il n'y a pas que du bon, alors il aurait fallu y aller mollo, quoi.
Les animaux, je reviens sur les animaux, parce que vous les montrez bien, que ce soit une biquette, une chevrette, les lapins dans leur clapier, les oies, et puis surtout, il y a beaucoup de chiens.
Ah, j'adore les
chiens.
Ah, j'adore les chiens de ferme.
Il y en a des chiens de ferme, tout à fait.
Ah, j'adore ça, les chiens de ferme,
gardiens
j'adore
de troupeaux, et qui sont en harmonie avec soit le bétail, et surtout avec son maître, l'agriculteur. Il y a quelque chose... de particulièrement émouvant.
Ah oui, et ils ont une tête, à chaque fois ils ont un caractère, ils ont des fois des noms assez remarquables, mais les chiens de ferme, j'adore quoi. J'adore, il y en a certains, on les voit sous la pluie, dans la niche, les chiens attachés avec les chiens, ça représente la campagne en fait. Hein. Pour moi c'est ça la campagne, c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'on se sent en France, dans la campagne française.
Alors, la campagne française, c'est aussi parfois des villes aux allures un peu sordides, où il n'y a plus grand-chose, des façades non entretenues, des volets fermés, quand bien même vous, un peu à la manière de Baudelaire, vous essayez d'imaginer ce qu'il y a derrière ces volets et la vie qu'il y a pu y avoir. Vous vouliez réagir, Jean-Christophe ? Vous avez découvert aussi quand même... qu'il n'y avait plus de commerce et que...
Il n'y a plus grand-chose en commerce, mais bon, il y a quand même quelques bourgs qui regroupent les commerces, alors qu'avant, c'était tous les petits villages qui avaient des dizaines de commerces. Maintenant, ce n'est plus que les gros bourgs. Oui. Mais,
et vous, à Millet, vous faites vos courses
Moi, je vais à Luzy. Je vais à Luzy, parce qu'à Millet, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus que l'auberge et il y a un point postal.
Oui.
C'est tout. Après, je vais à Luzy, mais... Mais ce qu'il y a, c'est que même si dans les petits villages, il y a pas mal de maisons abandonnées ou fermées, ou alors qui sont ouvertes que pour l'été ou les vacances, il y a des villages où tout est rénové,
Alors là, vous dites que c'est une catastrophe.
Mais il y a pas. Ben ça dépend. Ça dépend. Ça dépend où, hein, parce qu'il y a des endroits où ils savent le faire, comme à Noyers-sur-Serein, c'est exceptionnel. C'est il y a des endroits où ils se rendent compte. Mais Noyers-sur-Serein, c'est pas en Morvan. Mais
on est d'accord.
Mais voilà. Oui, mais voilà. Mais justement, quand vous voyez qu'il y a des villes qui se rendent compte du patrimoine, qui connaissent leur patrimoine et l'histoire de leur village et qui font en fonction de ça. Et il y a d'autres villages qui connaissent pas,
qui s'intéressent pas, qui
rénovent tout, qui gomment toute l'histoire du village en se disant bah, tiens le monument mort je le dégage, oh ben tiens on va virer ça alors qu'il y avait un cimetière avant. C'est insupportable de voir ça et tout simplement juste pour se faire croire, enfin se faire appeler village du futur.
C'est ça, vous écrivez des villages dits du futur dont les travaux de rénovation tournent au carnage patrimonial. Il y a une photographie où vous prenez un monument qui rappelle l'assassinat d'un Français par les Allemands, me semble-t-il, en 1944. Et il y a un conteneur juste à côté.
Oui, des poubelles à côté, ouais.
Oui.
Ben, moi, c'est des choses comme ça, des petits détails.
Ça vous heurte, moi aussi, d'ailleurs.
Le principe, c'est le principe, attention. Parce que, voilà, je ne suis pas une vierge effarouchée, mais c'est le principe. Est-ce que vous aimeriez, si c'était votre père, votre grand-père, qu'il soit mort pour la France? Déjà, ça, c'est quelque chose. Et on vous met les ordures à côté, bon, quoi, avec les mouches.
Vous
les,
êtes passé là, peut-être.
Non, sa place, c'est leur place.
En permanence.
C'est la place des conteneurs. C'est la place des conteneurs. Alors, est-ce que tu peux pas voir qu'il y a à côté, il y a un monument aux morts? Je sais pas, moi, c'est incroyable.
Alors, parlons des vivants, de ceux qui sont restés, qui ont vécu en Morvan, qui terminent leur vie en Morvan. Il y a beaucoup d'émotions dans les DVD, Rencontre en Morvan, volume 1, volume 2. On retrouve certaines de ces personnes à travers des portraits en noir et blanc dans votre livre « Morvan, du rêve à la ruralité ». Roger Rossignol, alors il est à Frétois, à Cussy en Morvan, il vit très seul, il ne croit pas en Dieu, il a travaillé depuis l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qu'il vous raconte, Roger, quand vous buvez le café avec lui dans son intérieur modeste, un petit peu surprenant?
Alors lui, c'était un coup de cœur et c'est par la rencontre de Roger qui a disparu aujourd'hui, il est décédé. Mais c'est par la rencontre de Roger que j'avais été voir une recommandation. On m'avait dit, tu devrais aller voir ce monsieur, il est vraiment super. Et donc j'y avais été pour le prendre en photo à la base. Hein. J'avais pas d'idée de faire de film. Et quand je l'ai rencontré, ça s'est fait même pas 5 secondes, je me suis dit, ah non, là, les photos suffiront pas. Donc, tout de suite, je me suis mis en tête que non, c'était pas possible, qu'il fallait que je le filme. Je lui ai demandé dans la foulée, alors que je sais pas filmer, hein, je veux dire, j'ai jamais pris de cours, j'ai pas fait d'études, mais il fallait que je filme. Parce que des personnes comme ça, ben, la preuve, hein, il est décédé aujourd'hui, mais il faut.
Alors, il a jamais trouvé femme, vieux garçon,
c'est ça.
Et on se dit, a-t-il été heureux? Qu'est-ce que vous en pensez?
Franchement,
vous, Jean-Christophe?
Je sais pas.
Lui ne s'est pas lamenté.
Il avait l'air d'avoir eu une vie compliquée, et il le disait. Il avait l'air désabusé également, et il voulait pas contribuer au progrès. Voilà. Il voyait le progrès se faire, mais il n'a pas voulu contribuer. Ça veut dire qu'il restait quand même en dehors de ça, un minimum. Et alors, est-ce qu'on est heureux? Franchement, même cette question, on peut la poser à n'importe qui. Je ne pense pas qu'on puisse répondre à cette question. Mais en tout cas, il a vécu la vie qu'il a voulu. Je pense qu'en tout cas, il a vécu libre, ça c'est sûr. Et de toute façon, on peut avoir des regrets avec n'importe quel mode de vie qu'on puisse avoir, mais répondre à sa place, je ne sais pas.
Alors, on voit ces vieilles femmes, femmes d'agriculteurs, qui elles-mêmes ont aimé leur métier et qui n'ont, à mon avis, jamais eu d'autres horizons. Ils ne sont peut-être pas partis en vacances.
C'est complètement ça. Alors après,
ont-ils été malheureux pour autant?
Ben voilà,
ça ne veut rien dire.
Je sais pas, parce que dans tous les cas, on est esclave de notre train de vie. Ça veut dire que si on est agriculteur avec le mode paysan, on est esclave de nos bêtes, on est esclave de nos champs, parce que pour vivre, on est obligé d'entretenir ça et on peut pas partir en vacances. Mais de notre côté, on nous a donné le droit de partir en vacances, plein de droits au niveau du travail, mais c'est pas pour autant qu'on est plus heureux. Au contraire, on court après des choses inutiles et on n'est pas plus heureux, loin de là même. À mon avis, non. On n'est pas heureux. On est, Moi, en tout cas, je ne me considère pas comme quelqu'un d'étant heureux. Et je ne peux pas dire que je suis malheureux non plus, parce qu'il y a beaucoup plus malheureux que moi. Donc, je ne sais pas, c'est une question qui est compliquée. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des personnes qui ont, pour certaines, qui ont voyagé ou vu du pays. Mais après, est-ce que la condition humaine, c'est le fait de pouvoir, est-ce que c'est la finalité de voyager? Je ne sais pas. On n'est pas né, l'humanité, elle n'a pas été créée avec les voitures, c'est nous qui les avons créées. Alors à la base, on est fait pour peut-être un petit peu voyager à pied avec des chevaux, mais on n'est pas fait pour prendre l'avion. Moi, c'est ce que je pense. Je l'ai fait, j'ai pris l'avion, mais maintenant, je vois la vie autrement. Je me dis qu'on est des humains, et puis, ben voilà, on est en vie, et puis voilà. Enfin, normalement, ça devrait être ça. On est en vie, et on devrait, je dis bien, on devrait tous s'aider, mais ça, c'est utopique. Donc, je suis un peu désabusé. Je suis en roue libre sur
Mais
plein de sujets.
vous écrivez que j'ai des envies de révolution.
Ah, ben la révolution, oui. Ben, une révolution, mais.
Il y en a eu déjà dans notre
Ben
pays.
oui, mais une révolution immobile, j'aimerais, moi.
Alors,
J'aimerais une
dans les esprits, une
révolution.
sorte de révolution copernicienne dans la
Et
tête du plus
que
grand
les gens ne
nombre.
bougent plus de chez eux. Que les gens arrêtent tout. Qu'ils arrêtent tout, et que les décisions que peuvent prendre l'État, ben, ça sert à rien. Si, comme pour le Covid, les gens ne jouaient pas le jeu de ce que l'État demandait, ben, ce que l'État dirait, ben, ça aurait aucun impact sur le réel. Le réel, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas un État. Le réel, c'est que pendant qu'on vous bourre le crâne à dire que c'est le Covid, c'est le chaos, c'est la famine, c'est tout ce que tu veux, les murs, elles continuent à faire leurs fruits, les arbres, ils continuent à faire leurs fruits. Et c'est pas parce
Et les
que
oiseaux leur
trois
nient.
connards qui disent à la télé. Ben oui! Non, non, la vie, elle continue, le réel, c'est ce qu'on a devant soi. C'est pas la télé, c'est pas ce qu'on nous raconte à la télé.
Vous vous
Et.
rappelez, Jean-Christophe, les images à Paris, rue déserte, en raison du
Oui,
confinement,
oui.
où on a vu les animaux se réapproprier l'espace public.
Oui. Ben oui, mais c'est
Ça,
normal.
on a même vu, je crois, je ne sais plus quel mammifère dans les eaux de la Seine, je ne sais pas si c'était un. J'ai peur de dire une sottise, c'était pas une baleine, bien évidemment, mais un animal qui. C'est absolument incroyable,
En
finalement. C'est ça
Angleterre,
le
on voyait des sangliers.
réel. Le réel, c'est lorsque l'homme ne vient pas tout perturber.
Ben, le réel, c'est déjà de. Si on coupe la radio et la télé que je n'ai plus d'ailleurs, si on coupe la radio et la télé, et qu'on regarde ce qu'on a devant soi, ça, c'est le réel. Il n'y a pas d'autre réel. Alors, je suis d'accord que il peut y avoir la réalité, par exemple, une guerre qui soit concrète. Mais oui, mais notre réel, c'est ce qu'on a devant soi. Qu'on s'occupe déjà de ce qu'on a devant soi plutôt que d'essayer de manipuler la masse en montrant une partie du globe et en essayant de faire peur à tout le monde. Le réel, c'est ce qu'on a devant soi.
Bon, en tout cas, nous ne manipulons personne. Cette
Non,
fin de
je sais,
matinée
sinon
sur Radion, et ne coupez pas votre radio. Jean-Christophe Zounia nous accompagne jusqu'à midi pour son album photo Morvan, du rêve à la ruralité. Il y a également Écho Anonyme. Je rappelle aussi les DVD sortis il y a quelques années, Rencontres en Morvan, donc deux films de Jean-Christophe Zounia, et Le marché au cadran, témoignages d'agriculteurs du Morvan. Et d'ailleurs, on revient après. Un petit intermède musical, pardon.
Because I'm happy.
Clap along.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je leur remercie encore d'être en cette fin de matinée devant les micros de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. C'est Jean-Christophe Zounia qui est avec nous, photographe, documentariste, compositeur. En tout cas, vous l'avez entendu, hein, il vit le Morvan, un franc-parler. Jean-Christophe Zounia, Morvan, du rêve à la ruralité. Donc cet album où vous montrez le rêve, les rêves passés et la ruralité d'aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse sur un autre album photographie, alors particulièrement original, ambitieux. Ce sont des photographies anonymes que vous avez peut-être achetées et qui sont alors d'époque et qui sont... il y a des portraits, il y a pas que des photos prises en France, vraisemblablement.
Ah non, du monde entier.
Du monde entier. Et cet album de photographies, certaines sont en couleur, mais c'est de la couleur un peu de...
Des années 80, quoi.
Voilà, les années 70-80, les Kodak ou
c'est
peut-être...
Ouais.
Éco-anonyme. Un petit mot sur ce livre, ambitieux.
Ambitieux et risqué, puisque j'ai pris le pari de... En fait, j'aime les photos anciennes, les cartes postales, les cartes photos aussi, puisque avant, il faut savoir que quand on faisait une photo, on pouvait aller chez le photographe et le photographe nous disait est-ce que vous la voulez en photo ou alors en carte postale. Et en fait, y en a qui demandaient leur photo de famille en carte postale. Et donc, ils se retrouvaient avec les cartes postales. Et on a des cartes photos qui sont exceptionnelles. Et donc, moi, j'adore ça. J'adore les photos anciennes et les photos anonymes particulièrement, puisqu'elles dégagent une force incroyable pour certaines.
Et sans doute, derrière une histoire familiale, un voyage,
on
ne sait pas quoi.
Alors, on ne sait pas. Des fois, il y a quelques annotations au dos de la carte ou de la photo, mais... pour le livre, j'ai choisi de rien mettre, pour laisser les gens s'imaginer les histoires.
Autant d'histoires à imaginer, donc c'est échos anonymes.
C'est ça.
Je trouve cet album est émouvant, parce qu'il y a des gens en photographie à des époques sans doute très anciennes qui ne sont plus de ce monde.
Il y en a du 19e, il y en a fin 19e, et il y en a jusque dans les années 80... des photos 1980, mais la plupart, elles sont aux alentours des années 1900 et 1950.
Jean-Christophe Zounia, je l'ai dit en début d'émission, vos cartes postales, elles sont disponibles en Bourgogne, dans les 4 départements, dans 60 points de vente. Mais si on veut se procurer vos livres, c'est très facile, parce que vous avez, on va dire, un site, c'est un site marchand, n'ayons pas peur de le dire. Je vous laisse peut-être quand même...
C'est lemorvanenphoto.com, il n'y a pas de S à photo. Et vous pourrez trouver en fait les DVD, les livres qu'il me reste en stock, puisque je n'ai plus de Regard sur le Morvan et Morvan Rhapsody. Et vous pouvez voir également en période des calendriers à la vente des t-shirts. Bon, ça c'est pour les petits cadeaux à faire. Mais en tout cas pour les livres, et même pour se tenir informé, si un jour je ressors un nouveau livre, vous pouvez vous rendre sur le site lemorvanenphoto.com.
Il y a cette phrase... dans Morvan, du rêve à la ruralité, Jean-Christophe Zounia, pardon, vous écrivez « Celui qui ne voit rien ne sait pas regarder ». Très intéressant sous la plume d'un photographe. Je redonne la phrase. « Celui qui ne voit rien ne sait pas regarder ». Vous savez regarder ce Morvan, vous le figez par des photographies et vous réunissez toutes ces photos dans ce très beau livre « Morvan, du rêve à la ruralité ». Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture en Morvan et de celles et ceux, les forces humaines, qui ont choisi, comme vous, de s'y installer et d'y vivre.
Alors, l'agriculture de masse, on va dire, qui sert vraiment pour la majorité des habitants, je la vois se numériser. Il y a l'intelligence artificielle qui pointe le nez de plus en plus, et on est qu'au début, c'est que les prémices. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, non pas parce que j'aime ça, mais parce que je sais que ça va être l'avenir, parce qu'on nous prépare à ça. On nous prépare à ça. Et de plus en plus, les décisions que prenait l'agriculteur, ça va être des robots qui vont les prendre à notre place. Une intelligence artificielle, un ordinateur qui va déclencher des actions en fonction d'un réseau. Donc tous les agriculteurs seront connectés entre eux. avec des capteurs, que ce soit météorologiques, des capteurs dans le sol, savoir s'il manque d'eau. Et ça va être les ordinateurs qui vont gérer à la place de l'agriculteur. C'est comme ça que je vois et c'est comme ça que c'est déjà le cas aux États-Unis, mais on n'est qu'aux prémices de ça. Et il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle, les objets connectés, ça s'appelle les objets connectés en fait, hein, c'est l'IoT et c'est l'Internet des objets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'Internet qui nous concerne. Mais on est en train de construire, notamment par divers réseaux, les crypto-monnaies, etc., plusieurs projets qui sont en route, mais de manière assez virulente, sur l'Internet des objets pour que les objets communiquent entre eux. Ça pourrait être les voitures qui communiqueront entre elles pour trouver une place au parking. Et en fonction de si vous voulez réserver votre place au parking ou que certaines voitures qui seront automatisées, enfin, sans conducteur ou alors conduite assistée. Vous payez avec des crypto-monnaies le fait que les voitures se garent sur le côté pour vous laisser passer. Enfin, c'est plein de choses comme ça.
Alors,
C'est
cette
du concret là.
agriculture, elle va se déshumaniser alors.
Ah ben oui, comme la société, hein. Elle va suivre la société. La
Donc, le Morvan
société.
va encore plus se vider de présence humaine.
Moi, je pense que, en tout cas pour ce qui est de l'agriculture, il va y avoir de moins en moins d'agriculteurs avec le savoir de l'agriculture, puisque le savoir va être oublié par rapport au fait qu'on va faire confiance à l'ordinateur et à ce qu'on a appris à l'intelligence artificielle. Ça va être l'intelligence artificielle qui va décider à notre place. Et on le fait déjà, nous, comme le GPS, hein, nous, en tant qu'habitants normal. Quand vous voulez vous déplacer, même si vous connaissez le chemin, imaginez, vous mettez votre GPS, le GPS vous donne un autre chemin, vous allez suivre le GPS parce que vous dites, bon, ben, il connaît mieux que moi. Et vous suivez alors que vous savez où est-ce qu'il faut aller. Ou alors le fait de ne pas se souvenir, ne pas enclencher le système du cerveau qui permet de retenir les lieux, voyez, les points de repère pour se repérer, pour aller d'un point à un autre. Et bien, en fait, depuis qu'on a le GPS, on fait confiance au GPS, on ne cherche pas à retenir le chemin. Mais c'est plein de choses comme ça. Mais le savoir, moi j'ai peur de l'intelligence artificielle, mais c'est en train d'arriver. On va connecter les objets entre eux pour qu'ils puissent prendre des décisions à notre place.
Alors, autre solution pour essayer de redynamiser le Morvan, mais c'est déjà le cas, c'est le tourisme. Pour ou contre
Ça dépend.
Parce
Parce
qu'il y a
que.
des aspects très positifs, mais le tourisme, ça peut abîmer beaucoup de
Ah, je suis
choses.
complètement
La
d'accord.
nature, troublée, perturbée. Qu'en pensez-vous, Jean-Christophe Zonia?
Alors, et pour revenir aussi aux agriculteurs. Ce qui me fait peur, c'est la gestion de l'eau. Et j'en parle aussi dans le livre. La gestion de l'eau me fait peur. La mauvaise gestion de l'eau. Comme là, en plus, on est dans le secteur. Là, dans tout le secteur d'Avallon, dans l'Yonne, il y a eu énormément de digues et de petits étangs d'anciens moulins qui ont été abattus pour laisser le fil de l'eau couler.
Oui.
Sauf que quand tu laisses couler l'eau, l'eau ne revient pas, hein. Une fois que tu laisses filer l'eau, l'eau s'en va. Et ça va devenir un vrai souci.
Un petit mot sur le tourisme, Jean-Christophe.
Alors le
C'est parce
tourisme,
qu'on arrive au terme de l'émission et j'aimerais que vous
le
vous
tourisme,
exprimiez là-dessus.
si c'est fait par des gens intelligents qui connaissent leur secteur, il n'y a pas de souci. C'est bien fait dans l'Ariège, c'est sublime. Dans l'Ariège, c'est exceptionnel le tourisme. Vous avez l'office de tourisme d'Arnay-le-Duc, qui est très professionnel. Elle connaît le secteur. Ils vont sur le terrain réellement. Ils connaissent le secteur dans les moindres détails. Et il y a d'autres offices de tourisme qui ne connaissent pas le secteur et qui prennent des décisions incroyables. Et pour le patrimoine Morvandio, en tout cas, je me documente beaucoup avec des livres anciens sur des patrimoines archéologiques, le patrimoine archéologique oublié. Et il faut savoir que depuis 2-3 ans à peu près, il y a des oppidas, c'est oppidum, hein, qui sont ravagés par la mauvaise gestion forestière. Alors, je ne mets pas en cause les bûcherons, enfin les forestiers. Les forestiers font leur travail. Ils coupent du bois, on leur dit de couper du bois, ils coupent du bois.
Alors, il y
Et
a
le
débat
problème.
aussi hein, sur l'exploitation de la forêt Morvandelle.
Ah
Alors
oui, il y a
là,
débat.
il y a polémique
Par
sur.
contre, moi, les forestiers, ils font leur travail. Je ne me mêle pas, c'est leur boulot, chacun doit vivre de son travail. Mais le problème est de l'État encore. C'est que quand tu sais que tu as un site archéologique majeur, comme un petit Bibracte, il y en a plein. Des sites archéologiques qui sont de valeur et que tu laisses la déforestation fracasser le patrimoine, là il y a un souci. Donc quand on fait croire qu'on met en valeur la région et que de notre côté on la détruit, on détruit ce qu'il y a à voir et qu'on met pas en valeur ce qu'il y a à voir, c'est un peu ambigu. Et également, je vous rejoins sur le fait que certains lieux méritent d'être oubliés pour être préservés, puisque selon ce que dégage le lieu, si c'est un vestige patrimonial,
ne serait-ce que des hameaux abandonnés.
Oui, ouais, il y a des hameaux abandonnés. Ouais,
mais bah, vous êtes tombé, vous avez fait par hasard ou on vous a dit?
Ah non, mais par hasard, en roulant quoi. Quand je vois des choses qui m'interpellent, je prends en photo quoi et je me renseigne. Mais peut-être qu'un jour, et j'espère, ce genre de hameau va être rétabli quoi. Et ça, il y a de plus en plus de projets où il y a des hameaux qui sont rachetés et réinvestis.
C'est ce qu'avait fait Henri Vincenot, par exemple, avec le hameau de la Peurie, où il avait reconstruit une maison complètement dévorée par les ronces avec ses enfants. Enfin bon. Cher Jean-Christophe Zounia, merci à vous pour Morvan, du rêve à la ruralité, donc cet album photographie. On pourrait bien évidemment prolonger la conversation des heures avec un bavard comme vous. Écho anonyme, les DVD rencontrent en Morvan le marché au cadran. Et puis surtout, Jean-Christophe, vous redonnez l'adresse de votre site pour que
c'est lemorvanenphoto.com, sans S à photo.
Le Morvan en photo, si on tape Jean-Christophe Zounia, on arrive très vite. Et puis on peut vous rejoindre sur Facebook, Le Morvan en photo, pour continuer à faire gonfler le nombre de membres, monsieur déjà. 25 000 membres, c'est suffisant, Jean-Christophe.
Oh ben après, voilà, arrêtons. C'est des passionnés du Morvan. Et vous pouvez également partager vos photos sur ce groupe-là.
Merci, Jean-Christophe Zounia. Et vous êtes attaché à la grandeur de la France. Vous l'écrivez?
Moi, je suis attaché...
Et ça fait plaisir à lire?
À l'histoire de la France, qui, en fait, c'est la Gaule. Hein, les Gaules. Les Gaules, c'est plusieurs petites régions qui font la France. Mais... Là, on est parti pour longtemps.
Mais un peu gaulois réfractaire, vous.
Ah oui, mais moi, je suis plutôt... Voilà, je respecte la nature, donc j'ai le côté païen gaulois. Je respecte la nature, je suis attaché à la nature, à la réalité. La réalité, c'est le soleil, c'est la pluie, c'est le vent, c'est les éléments naturels. Et on devrait se contenter de ça. C'est pas le reste. Hein.
En tout cas, bon retour à Millet. Dans la Nièvre, merci Jean-Christophe Zounia d'être venu jusqu'à nous en cette fin de matinée sur Radion. Je crois que toutes les informations se retrouvent aussi en podcast sur yannickpetit.fr et puis je pense que vous relayerez également le podcast sur Le Morvan en photo. Merci à toutes et à tous. Excellent congé de fin de semaine et puis congé de fin de semaine à l'écoute de Radion, bien sûr. Au revoir et à samedi prochain.
Au revoir.